Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui le cinquième dimanche après la Pentecôte. Et ce dimanche, le dimanche suivant et ensuite dans 15 jours, en fait, je fais un sermon à trois volets avec comme point de repère David. David. Aujourd'hui, le thème central de ce cinquième dimanche, vous l'avez vu dans l'Épître et dans l'Évangile, c'est le pardon des offenses. Et cela correspond à ce que l'Église nous donne au bréviaire avec l'histoire sainte en ce mois de juillet, et ça correspond bien à ce dimanche, justement. On voit le jeune David, qui n'est pas encore roi. C'est Saül, le roi des Hébreux. Saül voulait tuer David. Voilà cette belle histoire qui est résumée simplement dans le missel, dans l'Orfèvre. Je vous lis ce résumé si beau, si édifiant pour David. Hélas, ce n'est pas édifiant du tout pour le roi Saül. Donc aujourd'hui, nous verrons la force de David qui n'est pas encore roi. Dimanche prochain, nous verrons les faiblesses de David qui, pour le coup, sera roi, jeune roi. Et dans 15 jours, nous verrons la sainteté de David. C'est très encourageant de voir l'évolution de ce jeune homme, roi et puis vieillard par la suite. Il fut bon, pécheur et grand pécheur, et puis, par la miséricorde du bon Dieu et son propre courage, car le bon Dieu ne fait pas tout seul les choses, eh bien David fut un grand roi, un saint roi, mais on ne va pas anticiper. Pour aujourd'hui, et avec cette histoire sainte, on comprend davantage l'épître de saint Pierre et l'Évangile, selon saint Matthieu. Écoutez. David a remporté la victoire sur Goliath, un géant qui faisait peur à tout le monde. En effet, il mesurait 3,40 m, avait une armure extraordinaire. Rien que l'épée pesait, je crois, 70 kilos. Enfin, tout était à la mesure de l'homme. Tout le monde avait peur, même Saül, le roi Saül. Et il va se trouver qu'il y a un jeune homme, David, un pâtre, qui avait l'habitude de tuer même les ours, les lions, peur de rien, il était très courageux et habile, puisqu'il tuera Goliath par son épée, sans doute, mais il va assommer Goliath avec un petit caillou qu'il va lancer avec sa fronde au-dessus des yeux, en bas du front, au-dessus des yeux, car il y avait un point faible, un défaut à la cuirasse. Ce n'est pas seulement moral, mais c'est réel, c'est physique. Il va assommer Goliath en le frappant au front. Et puis ensuite, il va retirer le casque de Goliath. Il est un peu, pas mal même, abasourdi. Et il tuera ainsi Goliath avec son épée. Et lorsque David a tué Goliath, les jeunes filles de Jérusalem ont chanté. Saül en a tué 1,000 et David 10,000. Saül est jaloux. Jaloux de la force, du pouvoir, de l'habileté de David. Et Saül est très jaloux de David et il veut le tuer à plusieurs reprises. Alors que David chantait, il chantait avec le psaltérion, sorte de lutte, de harpe, et David a esquivé les coups par deux fois du javelot de Goliath. Et ensuite, Saül envoie au front David voulant le faire, qu'il meure au combat. Mais David est très habile, il ne meurt pas. Et un beau jour, Saül recherche David et il le trouve quasiment. David est dans une caverne et Saül est à l'entrée de la caverne. Un de ses compagnons dit à David, « C'est le roi qui arrive. Le Seigneur te le livre. Voici le moment de le frapper de ta lance. » Mais David répondit, « Jamais je ne frapperai celui qui a reçu l'onction sainte. » Il coupa seulement de son épée un gland du manteau de Saül et sortit. Au jour levant, il montra de loin à Saül le gland de son manteau. Saül pleura en disant, « Mon fils David, tu es meilleur que moi. » Une autre fois, David le surprit de nuit, en plein sommeil, sa lance fixée en terre à son chevet. Il ne lui prit que sa lance et son gobelet. Et Saül le baignait de nouveau, mais ne continua pas moins de le poursuivre. Plus tard, les Philistins recommençaient la guerre. Les Israélites furent défaits. Saül alors se donna la mort en se jetant sur son épée. Quand David apprit la disparition de Saül, il ne s'en réjouit point, mais il déchira les habits et fit tuer l'Amalécite qui, s'attribuant le prétendu mérite d'avoir tué l'ennemi de David, lui annonça cette mort en lui apportant la couronne de Saül et il chanta le cantique funèbre « Montagne de Gelboé, qu'il n'y ait plus sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ de prémices, car sur vous sont tombés les héros d'Israël, Saül et Jonathas, aimables pendant la vie et que la mort n'a point séparé l'un de l'autre. » Saint Grégoire le Grand pose la question. Pourquoi David, qui n'a même pas rendu le mal pour le mal, apprenant que Saül et Jonathas avaient succombé dans le combat, proféra-t-il contre les montagnes de Gelboé ces paroles de malédiction? En quoi les collines de Gelboé ont-elles été coupables de la mort de Saül pour que, ne recevant plus ni rosée ni pluie, toute leur verdoyante végétation devienne aridité, conformément aux souhaits de malheur. Saül, que l'onction n'empêche point de mourir, est la figure de notre médiateur en son trépas. Et les monts de Gelboé, nom qui signifie cours d'eau, représentent les Juifs au cœur superbe qui s'écoule en un flux de convoitises terrestres. Le roi, loin véritable, a perdu la vie du corps au milieu d'eux. Et c'est pour cela que, privés de toute rosée de grâce, ils sont dans la stérilité. Ces âmes superbes ne donnent pas de fruits, car elles sont infidèles. Elles demeurent infidèles à la venue du Rédempteur, et tandis que la Sainte Église, dès le début, s'est montrée précocement féconde par la multitude des nations qu'elle a engendrées, c'est à peine si, dans les derniers temps, elle recueillera quelques Juifs ramassés comme une tardive récolte et des fruits d'arrière-saison. On voit dans ces faits historique de l'Écriture sainte, la charité, grande leçon de charité du jeune David, qui n'est pas encore roi. Voyez-vous, il ne veut pas se venger de son ennemi, qui, au moins à 4 ou 5 reprises, a voulu le tuer. Et David pardonne à son bourreau, pardonne à ce roi qui était méchant. La Sainte Écriture dit que je n'ai pas le nombre exact des années de règne de Saül, mais la Sainte Écriture dit « Il régna 2 ans ». Ce qui veut dire qu'il régna 2 ans dans la sainteté. Tout le reste fut des années de péché. Et c'est ce qui compte aux yeux de Dieu, mes bien chers frères. Ce sont ces années passées dans l'état de grâce, l'état d'amitié avec Dieu. Les années passées dans le péché où on ne veut pas de Dieu, on refuse le bon Dieu d'une façon ou d'une autre, ce sont des années perdues. Des années perdues. Voyez-vous, le bon Dieu donne ce temps pour que nous allions vers lui et que nous n'allions pas autrement que vers lui. L'apôtre Saint-Pierre, dans l'Épître, nous dit bien ceci. « Mes bien-aimés, soyez unis dans la prière, compatissants, vous aimant comme des frères, miséricordieux, juste, doux. » 3 vertus du chrétien qui pratique la charité. Vous avez été appelés pour recevoir un héritage, en héritage, la bénédiction. Nous sommes des enfants bénis de Dieu. Et cet héritage, bien sûr, c'est le ciel. Le ciel, si nous vivons dans l'amour de Dieu, dans le pardon des offenses, dans la bénignité, la bonté. La bénignité, c'est la charité de Dieu qui s'est fait bonne pour nous, pleine de tendresse, de miséricorde, et non pas d'un cœur froid, sec, dur, méprisant pour le prochain, refusant de pardonner le prochain qui a pu commettre à notre égard des torts. Nous pouvons tous avoir reçu des torts du prochain. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande ce pardon des offenses. L'exemple, ce bel exemple, c'est David, qui ne veut pas se venger de Saül, quand bien même Saül est faible. Dans la caverne où David était, il était armé, et pas Saül. C'était facile pour lui de tuer Saül. Mais il se rappelle et va le dire que Saül a reçu l'onction de Dieu. Donc il est consacré par le bon Dieu, par le prophète qu'il avait sacré roi. Donc vous voyez, c'est bien important. C'est important de pratiquer cette charité et dans le pardon. Et pour terminer, et pour illustrer, parce qu'on a vu un exemple dans la Sainte Écriture, l'Ancien Testament, maintenant le Nouveau Testament. Hier, nous fêtions un très grand saint, Saint Jean Galbert. Il est né en 999, facile à retenir. Il mourra en 1073. C'était un chrétien, mais un guerrier, et la vengeance était chez lui une nécessité, d'autant plus que son frère est tué par un bandit. Donc durant un an, Jean Galbert ne pense qu'à une chose, tuer le meurtrier de son frère. Et voilà que un an après le meurtre de son frère, il rencontre le meurtrier. Il veut le tuer. Mais le meurtrier se met à genoux devant Jean Galbert, et le jour où le meurtrier de son frère demande grâce à Jean, ce n'est pas n'importe quel jour, c'est Vendredi Saint. Le meurtrier a beau être un voyou de la pire espèce, il se rappelle que c'est Vendredi Saint. Et il implore la grâce au nom du Vendredi Saint, de Jésus crucifié, mort pour nos péchés. Et Jean Galbert a pardonné. On peut dire, mais quelle toupée quand même. Le meurtrier qui dit, attention, n'oublie pas quand même, tu es chrétien, et Vendredi Saint, c'est Jésus en croix, il a pardonné. Rien ne dit que le meurtrier n'ait pas fait d'autres meurtres en un an. Mais ce n'est pas du tout paix. Il appelle la grâce, la miséricorde. La miséricorde. Jean Galbert a quitté le monde. Il s'est fait religieux. Il a fondé un ordre. Il a pris la règle de Saint Benoît. Il a fondé un ordre. Il sera extrêmement généreux dans sa vie, très pauvre. Il avait des grands biens, il va tout distribuer. Et il va faire la paix aussi en Toscane, où il mourra. Et on l'appelle en Italie un des protecteurs du pays. À l'époque, ce n'est pas encore un pays, c'est beaucoup de petits États, etc. Mais il va, justement, c'était des petits États sans lien les uns par rapport aux autres. Eh bien, il a fait la paix, voyez, grâce à ce bandit, finalement, qui a imploré la grâce ce Vendredi Saint. Ce n'est pas anodin. Le pardon des offenses. Ah, nous avons parfois du mal à pardonner à ceux qui nous ont offensés. C'est bien pour ça, mes bien chers frères, que Jésus, dans le Notre Père, a cisaillé une demande exprès pour cela. Le pardon des offenses. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une des sept demandes. Il y a peu de demandes. C'est une parmi les sept. Autant dire qu'elle est très importante. Alors, tâchons d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ, d'imiter les saints, David, Saint Jean Galbert et tant d'autres qui ont pardonné. C'est le père Lacordaire, et je termine vraiment sur ce mot, qui nous dit ceci. Si vous voulez être satisfait quelques instants, vengez-vous. Si vous voulez être satisfait longtemps, pardonnez. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.